Un grand bonjour à vous tous, chers amis auditeurs. Estimez-vous qu'un nom soit important? Est-ce primordial de savoir à qui l'on adresse ses prières et au nom de qui l'on prie? Avez-vous déjà remarqué combien Dieu accorde de l'importance à son nom? Il convient de ne pas employer n'importe quel nom pour désigner notre Créateur. Pierre déclare, « Il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. » Quel est donc le nom de celui par lequel nous devons être sauvés? Nous savons que le Fils est venu au nom de son Père, mais quel est le nom de son Père? Si vous ne connaissez pas le nom de votre Père céleste, comment pouvez-vous affirmer être son enfant, son héritier? Certains affirment que Jéhovah est le nom du Père et que nous devrions prononcer le nom de Jéhovah au lieu de Seigneur. D'autres enseignent que lorsque nous désignons le Père céleste ou le Fils, ou lorsque nous prions, nous ne devrions prononcer que les noms hébreux qui désignent la divinité. Ces personnes prétendent que c'est un péché que d'utiliser les noms Dieu, Seigneur, Jésus, Christ, Parole, etc. Ces noms, affirme-t-elle, ne devraient pas être traduits en français ni en d'autres langues. Mais le nom que nous utilisons pour désigner Dieu est-il si important? Dans le récit biblique, les noms ont une signification et sont choisis avec une intention précise. Le premier homme, formé de l'argile, de cette terre rouge, fut ainsi appelé Adam, qui signifie en hébreu « terre rouge ». Le nom d'Abraham fut changé en Abraham parce qu'il reçut la promesse de devenir le père d'une multitude de nations. Et c'est la signification du nom Abraham. Le nom de Jacob fut remplacé par Israël. Jacob signifie « celui qui supplante », tandis qu'Israël signifie « celui qui a l'avantage sur Dieu » ou « qui l'emporte sur Dieu ». C'est exactement ce qui se passa lorsque Jacob lutta pour être béni. Tous ces noms tels Adam, Abraham, Jacob, Israël ne sont pas traduits lorsqu'ils figurent dans une version française parce que leur signification est déjà expliquée dans la Bible. Par contre, d'autres noms qui figurent dans le Nouveau Testament et qui sont aussi très importants sont traduits de l'hébreu en grec. De son côté, Luc écrit « Il y avait à Joppé, parmi les disciples, une femme nommée Tabitha, ce qui signifie Dorcas. Tabitha est un nom araméen qui se traduit par Dorcas en grec, signifiant gazelle en français. Dans la parole de Dieu, vous trouverez d'autres exemples de noms propres traduits dans une autre langue. Il est évident que Dieu attache de l'importance aux noms et à leur signification. Il est donc logique d'en conclure qu'il en est de même pour les noms du Créateur qui nous permettent de mieux comprendre qui il est réellement. Dans l'Ancien Testament, le mot « Dieu » est traduit de l'hébreu « Elohim » qui signifie « ceux qui sont puissants », les tout-puissants. Ce nom a un sens de pluralité comme « famille », « église », « groupe ». Ces mots indiquent plus d'une personne. « Elohim » est le pluriel du mot « El » ou « Eloah ». Jean écrit dans son évangile « Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu ». Il y avait donc deux êtres au commencement, au sein de la famille divine. Le mot « El », qui signifie « quelqu'un de puissant », se retrouve dans plusieurs noms composés pour nous révéler d'autres indices sur l'identité, les caractéristiques de notre Créateur. C'est ainsi que nous trouvons El Shaddai, le Dieu Tout-Puissant, etc. Mais voyons la conversation que Dieu échangea avec Moïse du buisson ardent. Moïse dit à Dieu, « J'irai donc vers les enfants d'Israël, et je leur dirai, « Le Dieu de vos pères m'envoie vers vous. Mais s'ils me demandent quel est son nom, que leur répondrai-je » Dieu dit à Moïse, « Je suis celui qui suis. » Et il ajouta, « C'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël. Celui qui s'appelle « Je suis » m'a envoyé vers vous. » Dieu dit encore à Moïse, « Tu parleras ainsi aux enfants d'Israël, « L'Éternel, le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob, m'envoie vers vous. Voilà mon nom pour l'éternité, voilà mon nom de génération en génération. Je suis est un nom révélant la suprématie divine. Il n'y a personne sous les cieux qui soit supérieur à celui qui apparut à Moïse. Personne sous les cieux qui le domine. Il est le Seigneur de tout ce qui existe. En disant « Je suis celui qui suis », Dieu indiquait qu'il est l'être qui existe de par lui-même. Quant au nom « l'Éternel », il est traduit du tétragramme YHVH, signifiant « celui qui vit à jamais », qui est éternellement dominateur et seigneur. L'Éternel, celui qui s'est adressé à Moïse, qui a accompagné le peuple lors de la sortie d'Égypte, est celui qui allait devenir le Christ. Ce n'est pas celui qui sera connu plus tard sous le nom de Père. En parlant des Israélites, Paul écrit « Car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher était Christ. » Le Père est le Très-Haut, comme le confirme Luc dans son Évangile. En se référant au Christ, à Jésus, il écrit « Il sera grand et sera appelé Fils du Très-Haut. » Le Très-Haut et l'Éternel sont tous deux membres de la famille divine dont le nom est Dieu. Nous avons une étude sur ce sujet et nous la tenons gratuitement à votre disposition. Il vous suffit tout simplement de la demander. Un peu plus loin dans le livre de l'Exode, Dieu se présente en ces termes. « Je suis l'Éternel. Je suis apparu à Abraham, à Isaac et à Jacob comme le Dieu Tout-Puissant. Mais je n'ai pas été connu d'eux sous mon nom, l'Éternel. » L'Éternel est donc apparu à ces trois patriarches, sans toutefois se présenter sous le nom YHVH, mais plutôt sous le nom de El Shaddai, le Dieu Tout-Puissant. Pendant 2500 longues années de l'histoire de l'humanité, le Créateur ne s'est pas présenté sous le nom de YHVH. Cependant, plus tard, lorsque Moïse rédigea le livre de la Genèse, il y fait déjà figurer ce nom dès le deuxième chapitre. Avant Moïse, ce nom n'avait pas été utilisé par le Tout-Puissant, et si Abraham l'invoqua de cette manière, c'est parce qu'il savait que son Créateur était celui qui vit éternellement. David a écrit « Tu as élevé au-dessus de tout ton nom, ta parole. » L'Éternel a donc estimé plus important de faire connaître sa volonté à Abraham plutôt que son nom. Certaines personnes prétendent que le nom du Créateur est Jéhovah. D'autres sont favorables au maintien des noms hébreux et prononcent Yahvah ou Yahvé ou même Yévé. La langue hébraïque utilise des consonnes et des demi-consonnes, non des voyelles. Aujourd'hui, personne ne connaît la prononciation exacte de ce nom. Elle a été complètement oubliée. Après leur retour de déportation, les Juifs attachèrent une importance capitale à ce nom, et cette importance était si démesurée qu'ils décidèrent de ne plus jamais le prononcer. Chaque fois qu'ils lisaient ces quatre consonnes, YHVH, il prononçait Adonai à la place, ce qui signifie Seigneur, Maître. Voilà la raison pour laquelle la prononciation exacte de YHVH a été oubliée. La Bible a prophétisé que la prononciation de ce nom serait perdue. Cette prophétie a donc été accomplie aujourd'hui. Lisons ce qu'écrit Jérémie. « J'ai entendu ce que disent les prophètes qui prophétisent en mon nom le mensonge, disant « J'ai eu un songe, j'ai eu un songe. Ils pensent faire oublier mon nom à mon peuple, par les songes que chacun d'eux raconte à son prochain, comme leurs pères ont oublié mon nom pour Baal. » Au jour de Jérémie, les Juifs connaissaient la prononciation du tétragramme YHVH, mais ils se mirent à le considérer comme tellement saint qu'ils en firent presque une idole. C'est pourquoi ils décidèrent que ce nom ne devait plus être prononcé. Sa prononciation tomba dans l'oubli. C'est la raison pour laquelle, de nos jours, personne ne peut prétendre connaître sa prononciation correcte. L'Encyclopédie juive déclare « La prononciation originale doit avoir été Yahvé ou Yahavé. » La prononciation de YHVH n'est pas Jéhovah. Elle n'est connue que depuis le XIVe siècle de notre ère. Par contre, si sa prononciation est perdue, sa signification ne l'est pas. Ce nom signifie « l'Éternel », « celui qui vit à jamais », « le Seigneur ». La signification de ce nom est plus importante que sa prononciation. Certaines personnes s'opposent à ce que l'on traduise les noms de Dieu. Mais Dieu interdit-il cela? Après que le royaume de Juda fut conquis par Babylone, l'hébreu fut remplacé petit à petit par l'araméen qui était répandu dans tout l'empire babylonien. Daniel écrivit quelques chapitres de son livre en araméen. Esdras en fit de même. Or, lorsqu'ils ont écrit ces chapitres, Daniel et Esdras ont traduit les mots hébreux qui désignaient Dieu par le nom araméen Ella. En 78 endroits différents de ces quelques chapitres, le nom araméen Ella est utilisé pour traduire le nom hébreu Dieu. S'il avait été dans l'intention du Tout-Puissant que son nom ne soit ni écrit ni prononcé, mais seulement en hébreu, Dieu n'aurait pas permis cette traduction en langue araméenne. Pourtant, chacune des pages de la Bible, y compris les écrits de Daniel et d'Esdras, ont été écrites sous l'inspiration divine. Ceci nous permet de comprendre que nous pouvons utiliser le mot « Dieu » pour « Elohim » et « Éternel » pour le tétragramme YHVH. Certains affirment que c'est un péché de prononcer le nom « Dieu » parce que ce nom était utilisé par nos ancêtres pour désigner des idoles. Lisons ce que l'apôtre Paul écrit au sujet de ceux qui se sont détournés de Dieu. « Ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu. Ils ne lui ont point rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous et ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en image représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. Ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu. Autrefois, les hommes connaissaient Dieu, mais ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en image, en statue, à qui ils ont donné le nom de leur Créateur. Dans l'Ancien Testament, le nom hébreu Elohim, qui signifie également le royaume divin, ou encore la famille divine, est utilisé plus de 200 fois pour désigner des faux dieux, des dieux païens. À 16 reprises, Daniel et Néhémie utilisèrent le nom araméen Ella pour désigner les faux dieux des territoires de l'Empire babylonien. Dieu a inspiré ses prophètes pour qu'ils emploient dans l'Ancien Testament les mêmes noms hébreux pour désigner aussi bien les idoles païennes que le Créateur. Il nous est donc permis d'utiliser le nom français « Dieu » lorsque nous lisons ou lorsque nous parlons de lui ou lorsque nous prions. Dieu est le nom français pour la divinité suprême et, comme c'est le cas pour le nom « Elohim », il peut aussi désigner les idoles auxquelles les hommes donnent le nom de Dieu. Je continuerai ce sujet la semaine prochaine, car Dieu nous a donné des instructions précises sur l'utilisation de son nom.